les jardinières.
Bonjour à tous, bonjour Sarah et bonne année.
Bonjour Stéphanie, merci et bonne année à vous aussi. Bonjour et bonne année à vous Philippe Detra, notre spécialiste du jardin qui est avec nous ce matin.
Oui, bonjour.
Il est grand temps pour les jardinières de sortir de leur hibernation. Après une pause hivernale bien méritée, on recommence nos rendez-vous jardinage tous les samedis entre 7h et 8h. Philippe Detra, horticulteur à Neuchâtel, est avec nous pour ce premier rendez-vous de 2018. Il va répondre à toutes vos questions, que ce soit à propos de votre étoile de Noël qui baisse la tête, de vos plantes intérieures qui en ont marre de l'hiver, ou même de vos arbustes qui ne savent pas comment ni quand être taillés.
Le Père Noël n'est pas venu changer le numéro pendant les vacances. Pour poser toutes vos questions de jardinage à Philippe Detra, vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes à la minute. Et si vous n'avez toujours pas retrouvé votre voix depuis que vous avez crié pour le décompte de Nouvel An, pas de panique, vous pouvez aussi nous envoyer vos questions par écrit, soit par SMS au 939 en tapant le mot « jardin » en début de message et en laissant un espace avant votre question, soit par formulaire internet sous l'onglet émissions, questions aux jardinières, et dans les deux cas un maximum de détails, vous pouvez nous donner un maximum de détails sur votre problème de jardin afin que Philippe Detra puisse vous donner des réponses précises.
Et bien tout est dit hein, les jardinières, c'est parti.
Les jardinières, Sarah et Stéphanie.
Jean-Michel de Courtetel a eu un problème avec son pommier l'automne dernier. Ses pommes étaient remplies de perce-oreilles. Alors comment être sûr que ces insectes ne vont pas revenir cette année? C'est Jean-Michel donc de Courtetel, Philippe, qui nous pose cette question.
Ok, alors les perce-oreilles, qu'on appelle aussi des forficules, sont des insectes très utiles parce qu'ils nous débarrassent de plein de parasites. Donc ils dévorent énormément de petits insectes nuisibles. Pardon. Et puis, il s'attaque aussi aux œufs de Carpocaps. Donc, le Carpocaps, c'est un petit poisson. Qu'est-ce que je dis ? Un papillon qui va faire qui va donner la larve qui va être dans les fruits. Donc, s'il y a des perce-oreilles, il y a probablement des parasites. Maintenant, pour que les perce-oreilles n'allent pas se mettre dans les pommes, peut-être qu'ils pourraient lui faire des petits, ils pourraient leur confectionner des abris. Genre un pot suspendu, quelques pots suspendus dans l'arbre avec de la paille dedans. Donc les perce-oreilles vont apprécier ce genre de petits abris peut-être et ne pas aller dans les pommes.
Bah c'est justement, c'était un peu la suite de ma question, justement, comment se débarrasser des perce-oreilles, parce que effectivement, ces insectes sont apparemment très utiles.
Ils sont donc, très utiles. Voilà. Ouais. Il faut leur donner des petites maisons. Il faut leur fabriquer des petites maisons. Voilà. On peut mettre aussi du carton ondulé autour des troncs et les perce-oreilles iront se planquer là-dedans.
Oui, même que c'est pas très très joli à l'œil. En tout cas, c'est très d'accord. Utile, donc ne pas les tuer.
Alors, c'est plus joli de faire des pots à l'envers dans un pommier. C'est un petit peu sapin de Noël.
Effectivement.
Ça fait aussi un bel animal de compagnie. J'aimerais installer une serre pour faire un potager. Puis-je le faire déjà maintenant? Et quels légumes conseillez-vous de planter en premier? C'est Luc de la Neuville qui nous pose cette question.
Ok, alors pour les serres, c'est toujours un petit peu... moi-même, j'en ai évidemment parce que je suis horticulteur. C'est très énergivore, c'est-à-dire que ça va prendre, il va falloir chauffer les serres. Si on veut pas chauffer ces serres, on va juste gagner, qu'est-ce que je vais dire, 2-3 semaines au début du printemps, et puis une ou deux, et puis 2-3 semaines peut-être à la fin de l'automne. Donc c'est tout ce qu'on va pouvoir hâter comme légumes. Qu'on va pouvoir planter un petit peu plus tôt. Maintenant, les serres, une serre, il faut l'aérer, il faut l'ombrer peut-être. En cas de grand soleil, il fait vite extrêmement chaud. Donc, je dirais qu'il faut bien réfléchir à la construction d'une serre. Quels sont les avantages qu'on voudrait en retirer et quels vont être les inconvénients aussi, parce qu'il y a du travail dans une serre.
Est-ce que ça pourrait être une bonne idée de placer des bacs de compost pour chauffer la serre?
Ouche. Non, je crois pas. Enfin, le compost chauffe effectivement, mais il chauffe à un moment, il chauffe une fois lorsqu'on met de la matière fraîche. Donc il y a un petit dégagement de chaleur, mais je dois honnêtement dire que je me suis jamais posé cette question.
Oui, parce que c'est vrai que la chaleur, comme vous dites, ça c'est présent au début, puis après, ça reprend la température ambiante. Donc,
tout à fait.
Peut-être pas forcément une très bonne idée. Melvin, il a bouturé un bambou et il l'a placé dans un pot avec de l'argile pour pratiquer l'hydroculture. Seulement, depuis quelque temps, des espèces de cristaux de glace sont apparus sur l'argile et il ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que, Philippe, vous avez une idée de ce que ça peut être et surtout, est-ce qu'on peut déjà rappeler à tout le monde ce que c'est le bouturage ? Faire un petit rappel.
Ouais, alors ça m'étonnerait qu'il ait pu vraiment bouturer dans le sens propre de la bouture. Quand on fait une bouture, on prélève un fragment de végétal sans racine et on le met en condition pour qu'il fasse des racines. Or, le bambou, c'est une graminée, donc les graminées ne font pas des racines sur les feuilles. Mais il a probablement fait un prélèvement d'un drageon ou un morceau de rhizome, et ça marche. Maintenant, un bambou d'extérieur, normalement, il va qu'à l'extérieur. Donc il existe quelques bambous qui sont exotiques, qui peuvent aller en appartement. Et c'est peut-être ce qu'il a fait pour la plante qu'il a mis en hydroculture. Pour parler des petits cristaux qu'on peut trouver sur les pots en hydroculture, ce sont des sels. Donc en fait, ce sont des sels qui proviennent de l'engrais qu'il a probablement mis. Et les engrais que l'on met sous forme liquide sont des sels nutritifs. Donc en fait, c'est ça qui fait les cristaux.
Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut donc arriver pour, quand on pratique le bouturage.
Et puis, enfin, c'est pas une histoire de bouturage, mais ça n'a rien à voir avec le bouturage. Okay. C'est une histoire, peut-être qu'il a mis de l'engrais. Donc dans ce cas-là, maintenant, il faudrait peut-être arrêter de mettre un peu d'engrais, arrêter de mettre de l'engrais, mais arroser par-dessus de façon à dissoudre ses sels.
Mon orchidée a donné une nouvelle branche pleine de boutons. Je me réjouissais de les voir éclore. Seulement voilà, la branche est soudainement devenue toute brune et collante et les boutons n'ont jamais fleuri. À quoi cela est dû et aurais-je la chance d'avoir d'autres branches ? C'est Claudine de Cépré.
Brune et collante. Alors, brune, ça peut provenir d'un excès d'eau, peut-être. Collante, ben peut-être qu'il y a des pucerons, mais ça m'étonne un petit peu sur les orchidées. Je vois pas trop. Après, faudrait aussi savoir de quelle orchidée il s'agit. Elles ont pas toutes les mêmes façons de pousser, de se refaire. Les plus courantes, c'est les Phalaenopsis, qui font des branches, des hampes florales, et qui peuvent refaire des petites pousses sur ces hampes florales. Après floraison. Maintenant, je ne peux pas en dire plus là sur ce brun et collant, je suis désolé.
Comment on peut récupérer une plante qui a pris trop d'eau ?
Ouche, là, il faudrait la sécher un petit peu. Mais maintenant, une plante qui a trop d'eau et qui vient toute molle, eh bien, ça signifie simplement que ses racines ont pourri. Et puis une plante sans racines, elle ne peut plus vivre. Donc, si c'est tout au début d'un symptôme de trop d'eau, eh bien, enlever l'eau, rincer, assécher un petit peu, et puis redonner tout doucement de l'eau après quelques temps. Maintenant, s'il y a eu trop d'eau et puis que les racines sont pourries, c'est pourri.
Donc là, il n'y a plus rien à faire ?
Malheureusement, non.
C'est une question d'Hélène de Porrentruy qui arrive. Elle vient d'acheter un cocotier Nucifera. Alors, apparemment, un cocotier Nucifera, c'est un cocotier d'intérieur. C'est bien ça, Philippe ?
Oui, c'est la noix de coco. Ouais,
voilà. Ouais. Et en fait, elle aimerait qu'il tienne le plus longtemps possible. Seulement, on lui a dit qu'il avait besoin de beaucoup d'humidité. Évidemment, le cocotier, on sait que ça pousse en pays plutôt très humide. Alors, selon vous, est-ce que c'est une bonne solution de le placer dans la salle de bain ? C'est Hélène donc, de Porrentruy qui nous pose cette question.
Alors, comme je le dis souvent à mes élèves, il y a beaucoup de plantes de salle de bain. Il faudrait des grandes salles de bain avec des Velux, beaucoup de lumière pour que beaucoup de plantes vertes demandent une ambiance chaude et humide et lumineuse. Maintenant, la noix de coco, eh bien, bonne chance parce que j'en ai eu quelques-unes. Dans ma petite vie d'horticulteur, j'ai essayé, j'ai fait des essais. Souvent, elles attrapent des acariens parce que les appartements sont trop chauds et trop secs. Donc, on manque d'humidité dans un appartement en hiver à cause du chauffage. Et effectivement, ça serait une bonne idée. La meilleure idée, c'est de la mettre en salle de bain. Ça, c'est vrai. Maintenant, elle verra peut-être assez rapidement l'apparition d'acariens. C'est une décoloration du feuillage par des petits picotements jaunes. À ce moment-là, il n'y aura plus grand-chose à faire, si ce n'est traité.
Donc voilà. Et comment on pourrait le traiter si ça arrive ?
Alors déjà, ben, elle peut, pour prévenir ceci, elle peut doucher régulièrement sa plante. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ça va lui donner de l'humidité. Et puis, si c'est des acariens qui attaquent, eh bien, deux solutions. Soit on se débarrasse de la plante, parce que ça sera difficile de se débarrasser des acariens. Et si elle veut se débarrasser des acariens, traiter avec un acaricide qu'elle trouvera en grande surface ou en droguerie.
Merci Philippe Détra, vous êtes avec nous ce matin jusqu'à 8h pour répondre à toutes nos questions de jardinage. Des questions que vous pouvez poser par formulaire internet sur l'onglet émission questions aux jardinières. Par SMS également au 939, vous tapez le mot jardin en début de message, un espace puis votre question. Et aussi par téléphone, vous composez le 0901 70 20 20 et on pourra ainsi discuter de votre problème en direct avec Philippe.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières sont là jusqu'à 8h pour répondre à toutes vos questions, des questions que vous pouvez nous poser par téléphone au 0901 70 20 20 ou également par SMS au 939. Et Marie de Bienne nous a écrit pour nous demander « J'ai toujours de la ciboulette, elle semble résister au froid, mais les tiges perdent leur couleur et deviennent vert pâle. Pourquoi et que faire ?»
Une plante, c'est vrai, les jeunes feuilles, elles sont vertes normales, et ensuite quand elles jaunissent, un petit peu comme les feuilles des arbres, c'est tout à fait normal. Donc dans ce cas-là, je lui conseille de la raser, raser à ras le sol, et puis la ciboulette refera des nouvelles feuilles qui seront d'un beau vert.
Quand vous dites raser, on la rase comment ?
Avec un ciseau. Simplement coupé à ras le sol. Ça ressort. C'est une plante vivace, donc c'est très résistant au froid.
On a une question de Milena qui nous parle d'aloe vera. Elle a vu que cette plante avait des vertus soignantes et hydratantes, notamment pour la peau et même pour soigner les brûlures. Elle se demande si elle achète sa plante non bio dans un supermarché et qu'elle l'utilise donc pour ses vertus, que ce soit cosmétiques ou soignantes. Est-ce que ça peut être dangereux si la plante donc n'est pas bio ? Est-ce qu'il faut obligatoirement que ça soit vraiment une plante certifiée bio pour l'utiliser pour ces vertus-là ?
Alors, c'est un petit peu mon dada, hein, les aloés. ça tombe bien. Alors, j'ai déjà vu des aloés vera non bio dans des garden centres. Dessus, en général, c'est indiqué qu'il ne faut pas les utiliser. Voilà. Après, il est extrêmement difficile de savoir si ces plantes ont été traitées, oui ou non. Donc, si elle n'a pas été traitée du tout, en principe, elle pourrait avoir le label bio. Si elle était traitée, c'est juste pas possible. Après, si elle a été traitée, eh bien, effectivement, il y aura des produits phytosanitaires qui seront à l'intérieur de la plante, donc c'est pas conseillé de l'utiliser. Et honnêtement, je pense pas qu'il y ait des parasites, donc elles auront jamais été traitées. Donc, même une plante, une aloe vera non bio, à mon avis, je pourrais la considérer comme bio, mais en ne sachant pas exactement comment elle a été traitée, eh bien, il faudrait éviter de le faire. Maintenant, pour l'utilisation de l'aloe vera, je déconseille très fortement de la consommer. Déjà, c'est parfaitement dégueulasse, c'est d'une amertume épouvantable. Et puis, il faut savoir que sous l'épiderme de l'aloe, il y a des toxines. Donc si on l'utilise, moi je dirais que ça serait vraiment que pour des petits bobos, genre écorchures, petites brûlures, voilà, les petits bobos courants. Mm-hmm. Et dans ce cas-là, on coupe un morceau de feuille, une vieille feuille, et on applique le sucre, enfin l'intérieur, on l'applique sur la peau. C'est un petit peu gluant, mais ça soigne très bien. À part ça, je ne vais pas donner plus d'infos, parce que je ne suis pas docteur.
Mais les informations étaient déjà très complètes. Merci beaucoup Philippe Détra, vous êtes avec nous jusqu'à 8h. Vous pouvez, vous qui nous écoutez, nous poser vos questions par SMS au 939, par formulaire sur notre page internet ou au 0901 70 20 20. Comme un auditeur vient de le faire, on va écouter sa question après un point sur la météo et sur la route. À tout de suite.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, deuxième partie de cette toute première émission de l'année. Philippe Détra est en notre compagnie pour répondre à toutes vos questions concernant le jardinage. Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant.
Et bienvenue à Lucienne de Baule qui est avec nous.
Bonjour Lucienne.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, écoutez, j'ai un petit problème avec mon citronnier.
Je vous écoute.
Alors, écoutez, j'ai un citronnier qui a en tout cas un mètre d'envergure, mais cet été, il a été magnifique. Puis maintenant, je l'ai rentré comme l'année passée, et puis j'ai des soucis. J'ai les feuilles qui se recroquevillent et puis qu'elles tombent. Et puis les tout petits citrons, ils viennent violets, comme ça, voilà, ils rouillent un peu.
Ok, puis l'année passée, puis... Vous l'avez rentré
oui,
en appartement ou dans quel endroit?
Non, il est dans un réduit qui a 1 degré, 2 degrés l'hiver.
Mm-hmm. Ok.
Et puis à côté, j'ai un mandarinier qui va super bien, mais lui, il me cause des problèmes alors.
Ok. Bon, 1, 2 degrés, c'est quand même un petit peu limite pour un citrus, bien qu'il va survivre, hein, il n'y a pas de souci. Il serait un petit peu mieux s'il y avait un peu plus de pas beaucoup plus, hein, 5 à 10 degrés, ça serait chouette pour lui, avec beaucoup de lumière. Maintenant, les fruits qui viennent violets, les feuilles qui se recroquevillent. Alors, les feuilles qui se recroquevillent, c'est souvent dû à l'apparition de parasites. Souvent, mais il peut y avoir d'autres raisons aussi. Donc, il faudrait regarder à l'intérieur du recroquevillement de la feuille, voir si vous avez éventuellement, enfin, pas vous avez, mais le citrus aurait des cochenilles. Les cochenilles, c'est des insectes sous des petites carapaces.
Voilà. Oui, ils sont comment, blanches ou bien ?
Taille d'un puceron, mais comme une petite carapace de tortue dessus.
Voilà. Ah, d'accord.
Et c'est, en général, c'est brun. Il y en a aussi des blancs qui sont un petit peu farineux. Ça, c'est vraiment le chenille, hein, d'avoir ce genre de parasite.
Oui.
Ça pourrait être une des causes.
D'accord. Et alors, les feuilles, elles tombent alors automatiquement ?
Ben, les feuilles vont tomber lorsqu'elles seront trop faibles. Maintenant, c'est peut-être dû, je ne sais pas, où...
À l'emplacement, peut-être.
À l'emplacement, ça peut être aussi une carence. C'est quand même relativement compliqué, les citrus. Déjà, qui nécessite un engrais pour agrumes, qui est un engrais plus riche en magnésium. On trouve un petit peu de magnésium, dont les initiales sont MG, dans plein d'engrais. Mais les agrumes demandent des engrais plus riches en magnésium que les autres plantes.
Ah, d'accord, parce que moi, alors, je leur donnais de l'engrais, mais normal, quoi, liquide. Ah, je ne savais pas que ça se trouvait dans le commerce, alors.
Moi, je vous conseille d'acheter un engrais pour agrumes, c'est un peu tôt pour lui donner, hein, donc maintenant, il est au repos, mais au printemps, le nourrir avec ça.
D'accord, alors c'est très bien. Alors, je vais regarder d'abord s'il y a ces pucerons, et puis qu'est-ce que je peux le traiter, ou bien si jamais.
Alors, c'est assez compliqué puisque, en principe, si on a des citronniers, des mandariniers, on serait assez content d'en manger quelques fruits. Donc, si vous appliquez des produits phytosanitaires, vous allez empoisonner la plante. Donc, la seule méthode de traitement, c'est avec un produit très doux qui est à base d'huile de colza que vous trouverez en grande surface. Vous n'allez pas au rayon cuisine. Hein. Voilà. Donc, huile de colza. Qui est assez doux et qui étouffe les parasites. Ou alors le Q-tips et de l'alcool à brûler sur chaque bestiole.
Oui. Ah, d'accord.
Faut avoir de la patience.
D'accord, oui, voilà. Je vous remercie.
Merci, Lucienne.
Merci, au revoir.
Belle journée, au revoir.
Vous aussi, vous pouvez faire comme Lucienne. Hein. Vous suffit de composer le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Il y a aussi le SMS, on ne l'oublie pas, au 939. Vous tapez d'abord le mot jardin, puis un espace avant votre question. Et il y a aussi le formulaire internet sous nos sites.
Et Didier de Tavannes, lui, nous a posé une question. Il nous demande la chose suivante. L'été dernier, mon rosier a attrapé la maladie des taches noires et il se demande s'il va reprendre cette année, si la maladie va toujours être là et si c'est le cas, que ce qu'il peut faire.
Ok, alors la maladie des taches noires, c'est un complexe, c'est un mélange, c'est un doux mélange de plusieurs parasites champignons qui attaquent les rosiers. On va leur donner parfois le nom de Marsonia ou de Mildew, enfin voilà, il y en a plein de ces maladies des taches noires. Ce qu'il faudrait faire, c'est prioritairement en ramasser toutes les feuilles et les incinérer ou les jeter, donc les feuilles qui sont tombées au sol. Les champignons sont toujours là. Et ils seront tout contents de retrouver le rosier lorsqu'il fera beau et chaud au printemps. Mm-hmm. Donc, liquider toutes les feuilles et puis dès le début de la végétation faire quelques traitements avec du cuivre par exemple qui est assez efficace. Il est même autorisé en bio, le cuivre, c'est un des seuls fongicides phytosanitaires qui est utilisé donc pour lutter contre ces maladies des taches noires.
Caroline vient d'emménager dans une maison avec une haie qui n'a jamais beaucoup été entretenue. Elle est large et très haute, presque 4 mètres. Et si elle la raccourcit à 2 mètres d'un coup, est-ce qu'il y a un risque pour cette haie ?
Ça dépend quoi ? Ça dépend, elle est composée de quoi cette haie ? C'est ça là, un petit peu le souci.
Alors comme c'est apparemment une maison, on peut imaginer que c'est du tuyat.
Bon, je vais donner quelques cas de figure. Si c'est du tuyat, si elle sabre sa haie de 4 mètres à 2 mètres, il y a des risques que ça ne repousse pas dessus. J'en ai fait l'expérience chez un client une fois qui avait insisté pour que je tronçonne sa haie. Ça a mis des années pour que ça reverdisse. Alors ça, c'est une chose. Latéralement, c'est encore pire. Latéralement, c'est encore pire. Si on réduit en épaisseur, si on vient sur du bois qui n'a pas de verdure, eh bien, ça risque de pas du tout se reverdir. Donc, il faudrait y aller progressivement. Maintenant, si c'est un laurier, une laurelle, donc ce qu'on appelle le laurier, mais ce qui n'en est pas un, des laurelles qu'on voit dans beaucoup de haies, là, c'est beaucoup plus résistant. Donc, on peut revenir plus facilement et la plante va se reverdir assez facilement. Et à d'autres cas de figure, ça pourrait être une haie vive avec des forsythias, des lilas ou des plantes à fleurs. Là, c'est beaucoup plus résistant, donc elle peut rabattre assez radicalement.
Et en règle générale, une haie, ça se taille chaque année.
Ah oui.
Chaque année, il faut prendre soin et puis.
C'est beaucoup plus c'est plus prudent parce que si vous laissez aller votre haie dans des dimensions en hauteur ou en épaisseur qui sont trop importantes, le jour où vous voulez le réduire, c'est tout dégueulasse quoi, c'est tout sec dedans. C'est tout sec dedans, donc oui, c'est plus prudent de faire ça chaque année.
Et comment on fait pour tailler sa haie puis que ça soit droit si on n'a jamais fait ça et qu'on sait pas trop comment s'y prendre?
Apprendre à tailler droit.
Il n'y a pas des petites astuces, des petites combines?
Ah ouais, on peut
tendre. C'est le talent, quoi.
On peut tendre des ficelles, mais après, si on coupe la ficelle, ça ne sert à plus rien. Non, mais on peut tendre des ficelles à niveau, de façon à ne pas tailler trop bas ou trop haut. Mais après, c'est l'œil du... l'œil du maître.
Ou alors faire des petites sculptures dans la haie aussi, mais là c'est un petit peu plus dur quand même.
Ouais, ça c'est un peu plus dur.
Là ça demande un petit apprentissage quand même avant.
Vous pouvez poser toutes vos questions au 0900 70 20 20. On est là pour vous, on attend vos appels en nombre et puis bien sûr vos SMS aussi au 939. Vous tapez le mot jardin, un espace, puis votre question et vous pouvez aussi nous écrire par formulaire internet.
Les jardinières.
Patrice Jérôme nous a appelé pour vous poser des questions. Philippe Détras sur le jardinage. Bonjour.
Allô.
Oui, bonjour.
Oui. Oui, bonjour.
On écoute votre question.
Oui, petite question. Alors, moi, j'ai quelques avocats, c'est ça qui est bien. 1, 2, 3, 4. Et puis, ils sont toujours je les ai plantés, je crois qu'ils ont 2 années, ils sont toujours dans des verres.
Dans des verres? Donc, ils sont sans terre, ils n'ont pas de terre.
Ben, il y en a un qui a un peu de terre, mais il est trop chou, il a plein de feuilles. Et puis après, quelle décision je prends? Si je dois les mettre en pot ou pas?
Alors normalement, oui, ils seront beaucoup mieux en pot dans un mélange de terre que dans un verre. En plus, le verre, vous mettez de l'eau, donc ça risque l'eau, elle risque de tourner à la longue. Non. Donc les plantes seront beaucoup mieux dans un mélange de terre.
Oui, mais après, comment driver l'hydratation, c'est ça l'histoire. Parce que je me suis aperçu qu'il y en a des fois, ils baissent un peu le nez. Et puis, quand il y a moins d'eau, moi, je vois toutes les racines, puis il y en a des, ils refont encore des pousses. Puis je les pince un petit coup, Et puis, ils refont des feuilles. Bon, ils ont 2 années, ils ont des feuilles qui font au moins 20 cm. Et puis, ils font 40 cm de haut. Mais après, la décision, soit je les laisse comme ça, ou bien...
Alors, moi, comme je viens de vous le dire, il faudrait les mettre en terre. Bon, il y a un tout petit passage délicat au moment où vous les sortez du verre de ce milieu aqueux donc qui est liquide et puis de, oui. le passer en terre, donc là ils vont faire un petit peu la tête, avoir les feuilles qui baissent, ouais. Sinon pour l'hydratation, voilà. Comme vous dites, driver l'arrosage, ma solution c'est toujours le doigt, vous plantez le doigt dans la terre et si c'est humide, oui. Vous donnez pas d'eau, si c'est sec, vous donnez de l'eau.
D'accord, mais il y a des fois, moi je suis assez surpris, parce qu'il y en a un ou deux, bon, ben, ils ont au moins 2 ans, 4 ans, puis il y en a un, quand il n'a pas d'eau, il y a toutes les racines qui sont apparentes, et puis il revigousse, c'est étonnant. Je ne sais pas quelle décision je dois prendre.
je ne peux pas rajouter autre chose que ce que je viens de vous dire, donc il faudrait à mon avis les mettre en terre.
Essayez déjà la technique de Philippe. Et puis, si vous avez encore des problèmes avec vos avocats, eh bien, vous n'hésitez pas à nous rappeler.
En tout cas, ok, d'accord.
Belle journée,
après,
en tout cas.
Oui, merci. Une autre petite question éventuelle?
Ah oui, bien sûr, allez-y, si vous avez une deuxième question.
Oui, une deuxième question. J'ai des framboisiers. J'ai acheté des framboisiers dans une grande surface, d'autres que j'ai récupérées. Et puis, j'ai pas trop taillé. Maintenant, est-ce que je peux faire la taille maintenant ou bien?
Alors, la taille des framboisiers, elle est relativement simple. Vous pouvez les tailler maintenant, c'est sûr. Si c'est des framboisiers qui donnent en automne, donc des framboisiers qu'on appelle d'automne, il faut les raser complètement. Oui. Vous les rasez intégralement.
Oui, alors...
Si c'est des framboisiers qui donnent plutôt en été, vous supprimez que les branches qui ont donné des fruits et vous laissez les autres.
D'accord, mais alors je vais peut-être prendre votre décision, c'est-à-dire que l'année dernière, moi j'ai rasé bien, comme une coupe de cheveux B28, et puis ils ont repoussé comme des malades, et puis j'ai, au mois de presque maintenant, je pourrais récupérer les framboises congelées. Non, c'était, et puis ça a rien donné. Alors donc je coupe plutôt à 30...
Vous rasez
60 cm.
Vous pouvez raser intégralement soit toutes les branches pour les framboisiers d'automne, soit les branches qui ont donné des fruits si c'est des framboisiers d'été. Et là, en principe, si vous les avez achetés, que ce soit n'importe où, il y a des étiquettes avec les...
D'accord, oui. C'est ça l'histoire. J'ai perdu les étiquettes. Bien, je vous remercie.
Je vous en prie,
merci
bonne journée.
Merci pour votre appel. Merci, au revoir.
J'espère. Bonne journée, au revoir.
Bonne journée, au revoir. Bien sûr, vos questions, vous pouvez encore nous les poser plutôt par SMS, à l'heure avance, au 939. Vous notez le mot jardin, un petit espace et votre question. Philippe, le temps file, mais par contre, on va encore vous demander la question qu'on pose habituellement en fin d'émission. Nous sommes déjà le 13 janvier, évidemment, les jardins sont encore assez endormis. Est-ce que vous avez un conseil? Que faire déjà au jardin en cette période ou dans nos espaces verts en général?
Ce qu'on peut faire maintenant, c'est planifier le printemps. Mais dans le jardin, on ne peut pas faire grand-chose. Faut juste espérer que ça ne va pas durer trop longtemps, ce temps doux, parce que la végétation risque de redémarrer. Et on a presque toujours des froids un peu méchants mi-février. Donc c'est ce qui risque d'arriver. Mais on ne peut pas faire grand-chose.
Et puis si, dans le cas où justement les froids arrivent, peut-être février, mars, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement, peut-être un peu préserver nos plantes?
Alors les plantes qu'on pourrait préserver, c'est par exemple des figuiers qui sont quand même un peu méditerranéens et puis qui sont pas forcément de... ils supportent nos climats, mais pas les climats, les froids trop importants. Donc on pourrait buter les plantes. Je crois qu'on en a déjà parlé avant Noël. Buter les plantes, donc c'est faire des grosses taupinières à la base de la plante et ça la protégera des très gros froids, même si les branches gèlent.
Est-ce qu'on peut déjà préparer des choses pour le printemps?
Oui, planifier. planifier. Et j'entends au niveau sol, non, il faut attendre. Le jardinier a aussi le droit de se reposer un petit peu.
Oui, c'est vrai qu'on ne pense pas au jardinier. C'est vrai que c'est un petit peu une période de pause en ce moment. Donc, voilà. Et puis surtout, laisser les plantes qui étaient sous protection, ne pas les enlever trop vite.
Oui, attendre jusqu'à, en tout cas, fin février. C'est les plus gros froids, c'est toujours entre mi et fin février.
Le temps file. Merci beaucoup, Philippe Détra, d'avoir participé à notre toute première émission de l'année. C'est un plaisir. Les jardinières, elles, remballent pioche, râteau et bloc-notes pour cette semaine. Et bien sûr, on sera très vite de retour pour voler au secours de votre jardin.
Tels des super-héros, on revient samedi prochain entre 7h et 8h. Dès maintenant, vous pouvez nous écrire un SMS au 939 en tapant le mot « jardin » et en laissant un espace avant votre question ou par formulaire internet sur nos sites. Vos questions seront traitées en priorité la semaine prochaine. Bon week-end et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Bon week-end à tous.
7h, 8h, les jardinières.